Alors, chers amis, peut-être vous vous souvenez du plan extrêmement simple du père Guardini dans son livre qu'on a pu appeler Préparation à la messe. C'est vraiment son propos. Le plan de ce qu'on pourrait appeler sa description spirituelle, c'est le silence, la parole, l'action. Et nous sommes dans cette troisième partie, l'action. Et dans l'action, il y a un cœur de l'action, et c'est ce dont il veut nous parler en premier ce soir. Nous étions quittés sur ce sujet épineux entre tous de l'offrande d'argent par la quête, et nous sautons à pieds joints sur le je crois en Dieu pour arriver au moment qui est celui de la liturgie eucharistique. Lorsque le Sanctus, le triple saint, a été chanté et que commence la partie centrale de la prière eucharistique, nous devrions nous dire à nous-mêmes, c'est maintenant que commence ce que l'ancienne langue de l'Église, l'ancienne manière de parler de l'Église, l'antique parole de l'Église nommait l'actio, l'action. C'est l'action proprement dite. Et nous devrions nous dire, maintenant, je dois commencer à concentrer vraiment toute mon attention sur cette action. Alors, si vous allez voir dans de très vieux missels, qu'ils soient gros ou petits, vous verrez en effet qu'on parle d'action et qu'on parle de infra-actionem. Alors, en creusant un peu, il s'agit pratiquement d'une faute de latin, et probablement, nous disent les spécialistes, et du latin médiéval et de la liturgie, il serait plus juste de lire intra-actionem, dans l'action, au centre de l'action ou au cœur de l'action. Il y a des prières qui doivent être formulées pendant que l'action sacrée du sacrifice eucharistique est accomplie par le Seigneur Jésus ressuscité en personne. C'est le moment, si on veut, pour dire les choses d'une façon peut-être un peu approximative, mais assez éclairante, c'est le moment où l'action du Christ se fait la plus intense pendant la célébration de la messe. Et en réponse à ce mystère d'action divine, d'œuvre divine, notre attention doit être elle aussi plus soutenue, plus impliquée que pendant le reste de la messe. Nous devons nous dire, c'est la grande action. Nous dire, c'est le moment où va s'accomplir la dernière volonté du Seigneur Jésus. On parle des dernières volontés de quelqu'un qui disparaît. Il n'y a pas de dernière volonté du Seigneur Jésus au sens strict, puisqu'il est vivant, ressuscité, et que sa volonté est toujours là. Il n'y aura jamais de dernière volonté, mais par similitude, on parle de ces dernières volontés qui sont « faites ceci en mémoire de moi ». Et nous sommes à l'instant de la messe où ce qui devait être fait, selon l'ordre du Christ, est fait. Et il se passe ce qui s'est passé le jeudi saint au soir, le Christ est là qui s'offre. Le Christ est là qui s'offre par les mains des prêtres et par le cœur le plus profond des fidèles, des baptisés, qui participent de toute leur grâce à l'action eucharistique. Le Christ est là avec son amour de rédempteur et avec lui toute son œuvre divine. Nous devons nous mettre en état d'action intense pendant que se déroule l'action liturgique. C'est ce dont, moi personnellement, participant à la messe, je dois prendre intimement conscience. Ma présence d'attention doit maintenant être une présence d'action. Et la présence d'action va atteindre un nouveau sommet avec le fait de me déplacer physiquement pour aller recevoir la nourriture divine. Je vais aller communier et nous allons vivre le signe sacré, le signe de Dieu sacré entre tous les signes sacrés, qui est celui de manger, d'obéir à la parole du Christ, recevez et mangez, recevez et buvez. Je vais moi aussi recevoir. C'est la suprême action de la créature sauvée par Dieu, recevoir. Et là, il ne s'agit pas seulement de recevoir la grâce, de recevoir la lumière, de recevoir quelques bénédictions de l'amour divin, il s'agit de le recevoir lui en personne, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nous sommes vraiment à l'instant où nous posons le geste sacré, le signe sacré qui nous fait entrer au plus intime de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi c'est le moment où notre recueillement doit être le plus intense. C'est cela que nous dit Romano Guardini en précisant, je ne vous dis pas cela parce que je suis prêtre, parce que je célèbre la messe et que du coup je suis particulièrement actif physiquement à ce moment central de la messe, je le dis en tant que baptisé. Je vous le dis, vous allez vivre une action qui surpasse toutes les actions possibles, qui est à la fois participation, comme nous le disions la semaine dernière, et qui est action éminemment personnelle, recevoir, recevoir comme le tout petit reçoit la nourriture de sa maman. Romano Guardini connaissait saint François de Sales et les méditations de saint François de Sales, dont nous fêtons cette année le 4e centenaire de la mort. Saint François de Sales est mort fin décembre. Il a été solennellement enterré fin janvier à Annecy. Nous sommes vraiment dans les célébrations du 4e centenaire. Saint François de Sales, tout simplement fasciné, émerveillé par le mystère de l'allaitement de la Vierge Marie. Et lorsqu'il veut dire tout ce qu'il a à dire sur la communion eucharistique, il nous invite à tourner notre regard vers ce mystère de l'enfance du Seigneur Jésus, ce mystère que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. La très sainte Vierge Marie a vraiment nourri son enfant, son bébé, l'enfant Jésus, comme les mamans nourrissent leur enfant avec son propre lait maternel. Et il y a là un modèle saint de la communion eucharistique. Recevoir, recevoir vraiment comme un tout petit le don qui nous vient du Seigneur par la médiation de la Vierge Marie et le don du corps et du sang eucharistique d'une façon tellement concrète, tellement physique et tellement charnelle, comme dirait Charles Péguy, dans le sens le plus beau de ce mot charnel. Recevoir. Et c'est à cela que nous nous préparons finalement pendant tout le début de la messe. Participer à l'offrande, participer au sacrifice, puis recevoir. Tout cela, en effet, n'est possible que si nous sommes recueillis à ce moment précis du cœur de l'action de Dieu et du cœur de la participation à l'action de Dieu par la communion eucharistique. L'action commence avec le recueillement. L'action sacrée, le signe sacré, commence à être sacré grâce au recueillement. Il est sacré de par la volonté de Dieu, mais il devient signe sacré pour moi grâce au don surnaturel du recueillement. Ce recueillement Voici ce que nous en dit maintenant le père Guardini. Ce recueillement réclame que j'en fasse l'objet de mon vouloir et d'un exercice systématique. Il y a une ascèse du recueillement, un entraînement, on pourrait dire une gymnastique du recueillement. On entend souvent dire que seule la prière et l'action religieuse qui naissent spontanément de nous, qui viennent de notre intériorité, seule cette prière et cette action seraient authentiques. Cela est faux. Voilà, c'est une des qualités de Romano Guardini, au milieu de tant de douceur, au milieu de tant de délicatesse et de retenue, il y a des moments où il utilise les formules tranchées, comme celle-ci, cela est faux. La spontanéité ne fait pas l'action ou la prière telle que Dieu les veut. Nous parlons de service religieux. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui de service religieux ou de service divin, de participer à un service religieux. Mais le mot a une très grande valeur. Cherchons à prendre cette expression au sérieux, l'expression surtout de service. Voilà. Accomplir un service, cela signifie faire une action qui ne surgit pas forcément d'une poussée intérieure, d'une spontanéité, d'un enthousiasme, mais c'est faire une action qui est faite par obéissance à l'heure voulue, au moment voulu. Il s'agit de persévérer dans le service, d'accomplir comme Dieu le veut le service. Le service, c'est le même mot que le ministère, ou si l'on veut, la diaconie. Il y a une façon d'être diacre du culte divin qui appartient à tous les baptisés. On peut vraiment exprimer cette belle vérité spirituelle que tous les baptisés confirmés sont des diacres, sont jusqu'au plus profond de leur être des diacres du Dieu vivant. Et ils se mettent au service, ils accomplissent aussi un service religieux. Alors, un service religieux à l'égard de Dieu, comme des serviteurs de Dieu, très belle expression qu'on utilise pour ceux dont le procès en béatification est commencé, serviteurs de Dieu. Très belle expression dont nous serions tellement heureux qu'on puisse l'utiliser à notre sujet. Voici une servante de Dieu, voici un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, serviteur aussi de nous-mêmes, puisque nous nous mettons au service de notre vocation, au service de notre destinée sainte et éternelle, et service de toute l'humanité, puisque par l'intercession, comme par la louange, nous nous mettons au service de tous nos prochains pour demander à Dieu les bénédictions, ou demander à Dieu le pardon, ou demander à Dieu la sainteté pour tous ceux que nous portons dans notre prière. Serviteur de Dieu, serviteur du culte du Dieu vivant. Eh bien, ce service ne se fait pas forcément dans l'ardeur ressentie. Et Romano Guardini, dans son livre sur l'Évangile et les Épîtres de Saint Jean, dont j'avais parlé le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, le 27 décembre, a cette manière de résumer cette belle conviction. Il dit: oui, l'amour peut être une ardeur, mais il peut être aussi une gravité paisible, un effort tranquille. C'est toute la connaissance qu'il a de la tradition, avec en particulier saint Augustin, qui ressort dans une telle expression de la part de Guardini. Le service de Dieu est aussi cette gravité paisible, cet effort tranquille. Ainsi, notre participation au cœur de l'action liturgique va avoir parfois cet aspect de travail peineux, voire pénible, de travail au service de Dieu, qui demande que nous rassemblions nos forces et notre attention pour, d'une façon tranquille et paisible, fournir un effort d'attention, un effort d'écoute, un effort d'implication pour que ce service de Dieu soit un véritable service de Dieu. C'est une action à la fois extérieure et intérieure. Et voilà ce qu'est le service divin. Nous devons faire l'apprentissage de ce service divin, l'apprentissage du recueillement, et nous devons vivre un véritable entraînement pour être tout simplement prêt à vivre cette chose toujours nouvelle qui est d'accomplir avec un esprit éveillé, profond et sincère la liturgie du Dieu vivant. Peut-on parler d'être recueilli sur demande? Eh bien, la réponse de Romano Guardini, c'est oui. Oui, on peut être recueilli sur demande de Dieu et par notre effort. Nous pouvons parvenir à un authentique recueillement qui permet de devenir ces fameux serviteurs dont le Seigneur veut mystérieusement avoir besoin pour le salut de toute l'humanité. C'est la belle expression qui existe dans la prière eucharistique numéro 2. Tu nous as rendus capables de servir devant ta face, de nous tenir devant toi pour te servir. Nous sommes en état de service tourné vers Dieu. Tout cela va conduire à être saisi par la présence du Christ, par être engagé de tout notre être dans l'événement, dans l'œuvre de la rédemption. L'œuvre, l'action de Dieu va nous emporter et va nous permettre de parvenir à ce moment sommet de la communion eucharistique. Romano Guardini insiste énormément sur la communion eucharistique parce que il a connu une époque où, y compris les étudiants, y compris les jeunes travailleurs, communiaient assez peu. Et aujourd'hui, lorsque nous le lisons, lorsque nous pensons au chemin que lui a parcouru, nous sommes émerveillés de voir cette insistance et de voir comment il a cherché à comprendre la démarche d'un saint Pie X qui a voulu que la communion redevienne fréquente et que la communion au cœur de la messe soit l'action, le signe sacré, le plus sacré que Dieu puisse donner et que nous puissions présenter au Seigneur Tout-Puissant. Une action aussi sainte nécessite un lieu saint. C'est le nouveau chapitre que ouvre pour nous Romano Guardini, et au risque de revenir sur une idée qu'il a déjà développée, il tient absolument à déployer toute sa pensée au sujet du lieu saint. Il y a des gestes sacrés, il y a des signes de Dieu qui sont sacrés, et parmi ces signes de Dieu, il y a le lieu totalement consacré à Dieu. Cette action si sainte est célébrée dans l'Église, c'est-à-dire dans le lieu saint. Oui, dans des occasions particulières, on peut célébrer ailleurs qu'à l'Église. En plein air, lorsque de grandes foules sont réunies pour une occasion très exceptionnelle, on sait qu'on peut célébrer sur un bateau, ou pendant les temps de persécution, célébrer même dans les prisons ou dans les maisons privées. Célébrer la messe dans ces conditions exceptionnelles peut être très impressionnant, voire très frappant, mais on osera dire un peu romantique, un peu sentimental. Bien sûr, cela peut devenir très solennel, très ample, ou sérieux et grave, comme les moments les plus difficiles de notre histoire. Mais nous avons quand même la conviction qu'une telle manière de célébrer doit rester inhabituelle, que ce n'est pas ainsi que le Créateur et le Rédempteur a voulu les choses. La messe doit être célébrée dans un lieu déterminé, et plus qu'un lieu déterminé, un lieu consacré que nous appelons, pour faire simple, une église. Cette affirmation extrêmement simple est souvent accompagnée d'une objection qui est tellement répandue qu'elle pourrait en avoir perdu sa force. Cette objection, c'est de dire, mais on peut servir Dieu partout. On peut faire partout l'expérience de Dieu. Et il n'est pas rare d'entendre celui qui fait cette objection ajouter, en utilisant la Bible, que le lieu convenable à l'expérience de Dieu, à l'expérience de la présence de Dieu, c'est selon le Seigneur Jésus en personne, la petite chambre silencieuse, le lieu le plus retiré de la maison. Ou encore, on peut objecter que Dieu, dans la nature, est particulièrement proche de l'homme au cœur droit, et que parfois il pourrait suffire d'une fleur particulièrement belle pour que le cœur humain se recueille bien mieux que dans une église obscure et mal construite. Il y aurait bien des choses à répondre à cela, mais on peut se demander ce qui est authentique dans de telles expressions, dans de telles objections, ce qui est vraiment authentique et ce qui est la part de la volonté d'être singulier, d'être exceptionnel, la volonté de sortir de l'ordinaire. On peut même se demander si celui qui fait ces objections a vraiment l'expérience longue, mûrie, persévérante de ce dialogue profond avec Dieu dans la petite chambre silencieuse, dans le lieu le plus retiré de la maison. On peut oser se demander s'il a réellement l'habitude de se recueillir dans la forêt profonde ou en face d'un parterre de fleurs. Et alors, si, par malheur, cette habitude persévérante n'existe pas, on comprend mieux pourquoi il peut dire que l'Église n'est pas aussi importante que cela pour se recueillir. La vraie réponse, elle se trouve dans toute la mystique du temple de l'Ancien Testament. Si autant de livres de l'Ancien Testament nous parlent du signe de Dieu qu'est le temple de Jérusalem, c'est parce que il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Le mystère du temple accompagnera l'Église jusque dans l'Apocalypse. Le mystère du temple, qui est, nous le savons maintenant, le corps du Christ en personne, le mystère du temple est le mystère de la présence douce et sanctifiante de notre grand Dieu.
Mon père, en écoutant ce que vous disiez concernant le degré d'attention et de présence dans l'action liturgique lorsqu'elle arrive à son apex, à son sommet, j'ai l'impression que ce n'est pas possible d'atteindre cette qualité d'attention s'il n'y a pas une compréhension, une connaissance quand même laborieuse, continue de ce qui est en train de se vivre. Que ça demande
Oui.
une forme d'initiation, peut-être patiente, mais pour que tout l'être soit intéressé à ce qui est en train de se vivre.
C'est la question de la connaissance, mais une connaissance, comme dirait saint Thomas d'Aquin, par connaturalité, c'est-à-dire non pas une connaissance intellectuelle ou culturelle, mais une manière de s'accorder au Seigneur Jésus, à la personne du Seigneur Jésus, à l'œuvre du Seigneur Jésus, qui a pour conséquence que nous expérimentons que nous sommes au cœur du mystère. On n'a pas autant besoin que cela d'explications, c'est ce que dit Romano Guardini, d'avoir le nez tout le temps dans le missel, ou de lire beaucoup d'ouvrages, ou d'avoir des sermons sur le sens de la liturgie. Il s'agit d'une sorte de sensibilité surnaturelle à la présence réelle du Seigneur Jésus et à l'action du Seigneur Jésus. Et comme il le dit, finalement, ce n'est que par la culture du recueillement. Lorsque nous faisons oraison, lorsque nous prions de la façon la plus personnelle et intime possible le chapelet, nous préparons le centre le plus profond de notre cœur à ce centre de l'action liturgique. Tout ce que nous avons vécu de prières contemplatives, de prières d'attention à la présence du Seigneur, va ici porter un fruit liturgique, un merveilleux fruit liturgique. C'est pour ça qu'il y a cette insistance sur l'ascèse, sur l'entraînement, sur la gymnastique du recueillement en dehors de la messe, pour que nous parvenions, pendant l'action, à nous recueillir de cette manière-là.
C'était vraiment la deuxième question que j'avais. Je me disais que pour cette préparation-là, pour cette imprégnation dont vous parlez, est-ce que le jeûne, toute l'ascèse, tout le combat contre les sollicitations de la chair ou tout ce qui peut être désordonné et bruyant en nous, est-ce que ça ouvre et ça facilite cette imprégnation, cette connaissance, comme dans le supraconscient, on dirait vraiment dans l'intime, on sait que c'est là que ça se passe et que c'est je suis au bon endroit, au bon moment, quoi.
Tous les jeûnes, toutes les formes de jeûne. Alors, il y a le merveilleux jeûne eucharistique. Peut-être vous souvenez-vous que Saint Jean-Paul II disait que pour lui, même si le droit canonique avait changé, 3 heures de jeûne avant la Sainte Messe, c'était un minimum absolu. En disant, voilà, c'est pas parce qu'il y a 60 minutes qui sont demandées de jeûne avant de communier qu'il faut en faire une norme qu'on ne peut pas développer, qu'on ne peut pas rendre plus vaste. Donc le jeûne de nourriture, mais aussi le jeûne des images, le jeûne du bruit, parfois le jeûne de la parole, toutes ces formes de purification, elles aussi, alors, en même temps que la prière contemplative, tout ce qui est de l'ordre de la mortification, tout ce qui est de l'ordre du renoncement, donc du jeûne, avec une façon étendue de comprendre le mot, tout cela est une préparation indispensable pour arriver, on a envie de dire, léger. Donc c'est léger comme un ange, on arrive grâce à la pratique du jeûne, à la pratique des jeûnes, à la pratique du combat spirituel, on arrive dans cette forme de légèreté surnaturelle au moment où il faut tourner son cœur vers le Seigneur.
Je posais cette question parce que c'est à notre époque, ça demande peut-être plus, encore plus d'efforts parce que malheureusement, même dans les messes, elles peuvent être facilement dispersantes ou bruyantes. Et donc là, le recueillement peut être empêché même à l'intérieur du sanctuaire. Alors peut-être que certains moyens traditionnels comme cela peuvent permettre d'aller plus à l'intérieur.
Alors, heureusement qu'il y a l'autorité de Romano Guardini, parce que c'est un sujet aussi sensible, aussi épineux que celui des bruits d'argent autour de l'autel. Les liturgies bavardes, comme dit Romano Guardini, sont une sorte de contradiction dans les termes. Pour lui, amoureux de la liturgie romaine, la sainte liturgie est tout entière dans la sobriété, dans la concision, dans la limpidité. Donc, trop de paroles tuent la parole. Et ce serait vraiment quelque chose de très compliqué que de devoir intérieurement lutter contre des avalanches ou des cataractes de paroles pendant la célébration de la messe. Oui, peut-être alors que le recueillement intérieur est encore plus indispensable.
J'ai pensé en vous écoutant, j'ai pensé à ce que j'ai appris un père du désert de Syrie qui disait qu'il s'agissait en fait d'accorder la liturgie intérieure, celle de notre corps, de notre âme, de notre esprit, la liturgie du cœur, avec la liturgie sacramentelle, la liturgie visible de l'Église, qui elle était accordée à celle du ciel qui se célèbre sans cesse devant la face de Dieu, et que l'Église avait cette liturgie, elle, visible, sacramentelle, et qui était là pour nous, voilà, aussi. Et que la liturgie du cœur nous permettait, comme une échelle, de passer les degrés pour arriver devant le trône de Dieu. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de syntonie comme ça entre ces liturgies, d'être accordé en somme pour que le mystère se célèbre en vérité et pas seulement de façon en figure comme le sacrement.
Oui, c'est une manière de parler de la liturgie qui nous fait un petit peu quitter le monde du signe, c'est sûr. En grande liturgie occidentale, romaine, latine, l'incarnation dans des signes très très concrets, comme nous y a initié Romano Guardini, la cendre, l'eau, le feu, bien sûr le pain, le vin, tous ces signes extrêmement tangibles sont totalement partie intégrante, nécessaire de la liturgie. Donc c'est un petit peu dans un sens dérivé qu'on peut parler de liturgie du cœur, puisque normalement, les signes doivent nous porter dans la liturgie. C'est ce qui fait qu'elle est tellement accessible à tout baptisé, à toute personne même en recherche de Dieu, c'est que les signes incarnés vont conduire à l'intériorité. Alors, oui, il y a un double mouvement. Ce qui existe déjà dans notre cœur nous permet de mieux vivre ce qui est physique, ce qui est matériel, mais le mystère de l'incarnation a pour fruit que ce qu'il est possible de toucher avec nos mains, de voir vraiment avec nos yeux, de sentir avec nos narines, tout cela, et bien sûr d'entendre avec nos oreilles, tout cela conduit au sacré, tout cela conduit à la présence même de Dieu. Donc c'est un chemin d'accès extrêmement humain, extrêmement incarné, qui n'a pas forcément besoin de quelque chose qui préexiste. La bonne volonté suffit, et c'est ce qui se passe d'une façon merveilleuse avec les enfants et même avec les plus petits, c'est leur capacité, alors qu'on pense que leur vie intérieure n'est pas encore extrêmement développée, leur capacité à réagir profondément, à être en harmonie avec tous ces signes sacrés, tous ces signes concrets qui leur sont apportés par la liturgie.
Merci de l'accueil que vous avez fait à mes questions, Père. Je vous laisse poursuivre et conclure.
Conclure sur ce lieu sacré. Et le Père Guardini veut continuer à nous donner un amour éclairé, très éclairé, surnaturellement éclairé de ce lieu sacré que sont nos églises. Les églises que nous fréquentons, celles dont nous connaissons les moindres recoins, l'odeur particulière peut-être, le jeu avec la lumière du jour, ces lieux très particuliers que sont nos églises paroissiales ou nos églises d'élection, celles dans lesquelles nous aimons aller pendant que nous voyageons, pendant que nous sommes en vacances, ou celles qui sont vraiment notre quotidien. Et pour éclairer cette espèce de joie que nous avons à être dans un lieu sacré, la sérénité, la paix divine que nous ressentons dans ce lieu sacré, Romano Guardini ne va pas hésiter à utiliser la grande idée de l'exorcisme, de la libération du mal, du fait que l'Église est un espace qui a été libéré du mal. Délivre-nous du mal. Dieu prend le monde très au sérieux. Ça peut nous sembler un petit peu gênant comme manière de voir Dieu, mais pour Romano Guardini, peut-être qu'on ne peut pas dire que Dieu est sérieux, mais l'amour de Dieu est sérieux. Et l'amour de Dieu prend au sérieux notre monde et notre amour. Tout est créé par Dieu, tout est porté par la puissance de Dieu, tout est rempli de sens et de signes par Dieu, mais nous savons aussi, grâce à la révélation, grâce à la Bible, que le monde est plein de puissances mauvaises, que le monde cherche à s'annexer l'homme, à le captiver. Bien sûr, le monde est idéalement le domaine de Dieu. Mais il faut que l'œuvre du Christ vienne intégrer ce monde à son royaume. Alors, il y a une manière de la part de Dieu qui est celle du temple de Jérusalem, qui est celle qui est décrite au sujet du mystère du temple, une manière de faire de Dieu qui est de prélever sur le monde tel qu'il est un espace particulier, de venir enlever au monde un espace qui soit libéré des finalités mondaines, des buts mondains, des objectifs terre à terre, et aussi des emplois, des utilisations du monde, et qui va appartenir à Dieu seul. Cet espace, ce morceau de monde est arraché par Dieu, par la puissance de Dieu, et est libéré par Dieu. On peut vraiment utiliser ce mot, il y a un exorcisme divin qui fait que ce morceau d'espace est pacifié, ce morceau d'espace est illuminé et il devient consacré à Dieu. Il y a des espaces qui, de par la volonté de Dieu, vont différer de tous les autres lieux de la nature, de toutes les autres œuvres humaines, et qui va être un espace sacré. Alors, par ce mot sacré, utilisé dans un sens intensément chrétien, il ne s'agit pas d'imaginer une vague impression de mystère qui pourrait se produire partout. Alors encore une fois, le mot romantique, si cher à l'âme littéraire allemande, imprègne la pensée de Romano Guardini ici. Quelque chose de romantique, du ciel étoilé, de la forêt sombre ou de la forêt remplie de soleil, quelque chose qui frapperait comme le destin, comme la destinée, comme une forme de vertige. Non, ce n'est pas cela le sacré dont nous parlons lorsque nous parlons d'espace sacré et de lieu sacré. Le lieu sacré, c'est celui dont parle la Bible. C'est ce que la Bible nous dit quand elle nous répète inlassablement, Dieu seul est saint. Dieu est pur, terriblement et souverainement pur. Dieu écarte le mal, il le juge, il le condamne. Dieu est la plénitude du bien, et tous les biens ne sont qu'un reflet de Dieu. Dieu vit dans un mystère impénétrable qui ne tolère aucune familiarité, et pourtant, il est le but vers lequel tend notre désir le plus profond, le plus inconditionnel. C'est cela la sainteté de Dieu. Si nous voulons apprendre ce qu'est cette sainteté de Dieu, nous ne devons pas écouter la parole des poètes, la parole des romantiques, mais écouter l'enseignement des prophètes. Et tous les prophètes vont nous dire et nous redire inlassablement, il est dans l'univers un certain nombre de lieux sacrés, de lieux consacrés, où tu pourras rencontrer ton Seigneur dans une étonnante paix, une étonnante lumière, une étonnante tranquillité sainte qui sont un don de ton Seigneur. Si vous le voulez bien, la semaine prochaine, nous continuerons à méditer sur le lieu saint, le lieu sacré où nous éprouvons la paix de Dieu.